Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 291 de notre podcast, un numéro dans lequel vous n'aurez pas de chroniques, de comics ou d'adaptation comme vous en avez l'habitude, mais un numéro dans lequel on va se poser une question qui a l'air toute simple comme ça, on va juste demander qu'est-ce qu'une bonne adaptation. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 291e numéro de Comic Stories. Numéro, comme d'habitude, Anthony. Oh. Comme d'habitude, Boris.
Bonjour.
Comme d'habitude, Clément.
Bonjour.
Et comme d'habitude aussi, Erwan.
Salut.
Pourquoi je vous ai proposé de faire cette petite discussion? Tout simplement parce que, et je suis certainement pas le seul à l'avoir vu passer, mais beaucoup de commentaires, de remarques récemment. Un petit peu par rapport au film Joker aussi, mais surtout par rapport à la série télé Watchmen, en cours de diffusion sur HBO et sur OCS en France. Comme quoi, il y avait un gros problème avec Watchmen. Si on n'a pas lu le comics originel, on ne peut pas comprendre la série, il nous manque des infos, c'est donc pas accessible à tout le monde, donc ça en fait une mauvaise adaptation, donc c'est un scandale, enfin bref, voilà, vous voyez jusqu'où peuvent aller les gens. Et du coup, moi qui apprécie très fortement la série télé, ça m'a un peu questionné. Je me suis dit, ok, peut-être c'est une mauvaise adaptation, peut-être pas. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on attend quand on parle d'une adaptation? Qu'est-ce qui est bonne adaptation? Qu'est-ce qui est une mauvaise adaptation? Est-ce que finalement, on n'est pas un peu tous trop difficiles et que quoi qu'il arrive, rien ne nous plaira? Voilà, et je me suis dit, on va tenter d'en discuter ensemble. Et toi, Anthony, quand je vous ai parlé du sujet, tout de suite, tu as dit, mais de toute façon, Watchmen, c'est pas une adaptation, c'est une suite.
Ouais, ouais. Oui, c'est une suite, puisque ça se passe après, et ça récupère des personnages du comics. Donc, moi, autour de Watchmen, puisque c'est le point de départ de cette question, effectivement, il semblerait que la série ait été vendue comme une adaptation. Mm-hmm. Je pense que là, c'est trompeur, puisque le but, évidemment, est de ramasser du public. Ça, c'est assez évident. Oui. Maintenant, dans le même temps, à mon avis, j'ai un petit peu suivi la communication, ils se sont jamais cachés de faire la suite. C'est la suite du comics de chez DC Comics par Alan Moore et Dave Gibbons. Et en ce sens-là, moi, c'est pas une adaptation. C'est la suite d'une œuvre en utilisant un autre support. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi, cet exercice-là de faire la suite d'une œuvre qui a été écrite, visionnée, lue, jouée sur un support particulier et dont on fait la suite sur un autre support qui n'est pas le même que le support original, c'est assez rare. C'est assez rare. Moi, le premier exemple qui me vient, ce serait par exemple The Witcher en jeu vidéo, qui est la suite d'une série de bouquins qui donc a basculé sur le format jeu vidéo. Mais c'est complètement, ça peut se compter, ce type d'adaptation qui n'en est pas, puisque ça raconte la suite. Donc moi, autour de Watchmen, je comprends pas tellement, parce que oui, il faut avoir alors lu le comics ou vu le film, parce que là, deuxième point, le film est une très bonne adaptation pour moi du comics. À part la fin, mm-hmm, qui diffère entre les deux. Mais oui, pour regarder la série Watchmen, il faut avoir lu ou vu le comics ou le film, ou les deux.
Mm-hmm. Voilà. Et au moins connaître la fin des deux.
Préférentiellement la fin du comics, puisque la série est est la suite du comics. Oui, il faut connaître la fin.
Et du coup, The Witcher, là, puisque tu en parlais, va même s'étendre encore et se développer en série télé sur Netflix, là, dans quelques jours, semaines, je ne sais pas exactement la date. Est-ce que c'est une suite ou pas? Moi, j'en sais rien, parce que je ne connais pas du tout cet univers-là. Adaptation pour le coup?
Adaptation. Ouais, alors, clairement, c'est une adaptation.
Mais en fait, c'est une adaptation des livres, parce que le jeu a fonctionné.
D'accord. Et du coup, pour rendre accessible les livres et donner envie aux gens, peut-être, d'aller... Oh, coucou, il y a des livres, voilà, on en fait une adaptation série. Ok.
Alors,
je vois le délire.
Là, pour le coup, j'ai un peu du mal avec ça, si on fait un aparté The Witcher, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs. J'ai un peu du mal avec ça, parce que si tu veux lire l'original, t'as les livres, et du coup, en regardant la série, tu n'as pas l'imaginaire que te laisse le livre, forcément, mais tu n'as pas la liberté que t'offre le jeu. Donc, pour moi, c'est un projet complètement bâtard, qui, au lieu de proposer une adaptation dans le sens « je m'intègre dans l'univers », du sorceleur, mais j'en raconte pas ce que me raconte le livre, puisque le livre me le raconte déjà. Et en plus, j'ai pas les possibilités que m'offre le jeu vidéo. Donc moi, la série The Witcher, en tant qu'adaptation, pour le coup, me dérange, mais bon, voilà, c'est ouais. Gérer l'arc, ce qui a écrit The Witcher dessus. Moi, je suis moins accro de ce projet-là que du projet Watchmen, que je trouve complètement inédit.
Ouais, je suis pas trop d'accord.
Bah vas-y, du coup.
Enfin, sur l'argument, parce qu'on adapte un bouquin, il n'y aurait pas de liberté, ou faudrait mieux lire les livres. Enfin, ça va être cliché, hein, ce que je veux dire, mais après tout, tu avais eu par exemple l'adaptation du Seigneur des Anneaux, ça avait super bien fonctionné, ça a même permis de, sans doute de pousser beaucoup à lire l'œuvre de Tolkien. Donc je suis pas sûr que ça soit néfaste. Et après, c'est la difficulté, c'est que les jeux vidéo sont excellents, et notamment The Witcher 3. Pour autant, la volonté d'adapter, elle est bien là. Après, effectivement, ça dépend. Est-ce que, sur le fait même d'adapter, est-ce que on considère qu'adapter quasiment ligne pour ligne, ou en tout cas d'adapter les grands traits, est-ce que ça a une utilité ou non, ou
c'est,
un sens ou non.
C'est là où on arrive à la question, du coup, qu'est-ce que nous, chacun, et là pour le coup c'est vraiment chacun nos attentes, qu'est-ce qu'on attend quand on va voir une adaptation? Est-ce qu'on attend quelque chose d'hyper fidèle qui suit du ligne par ligne, ou du case par case dans le cas de notre média favori, ou est-ce qu'on attend quelque chose qui twist, est-ce qu'on attend quelque chose de complètement différent qui prend juste le nom des personnages et des noms un peu emblématiques et qui broie tout ça à une autre sauce? Voilà, là après c'est quelque chose d'effectivement très très proche, et du coup c'était aussi voilà la question qui m'intéressait. Par exemple, toi Erwan, adaptation, qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que j'attends? En fait, pas grand-chose. Moi, tant que je retrouve une essence, c'est-à-dire même un semblant d'essence de la série originale qui est adaptée, ça me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on piétine les personnages. Mais globalement, moi, si je retrouve l'essence des personnages, je suis content. Je sais que je suis pas un des seuls, mais je suis un des rares qui a apprécié le Justice League ou le Batman vs Superman. Pas forcément adaptation, mais juste parce que j'ai retrouvé l'univers comics, moi juste ça me suffit en fait. Je suis content d'avoir de voir mes persos en histoire qui ont été adaptés pour le cinéma, et rien que ça, moi je suis content. Je suis un gamin à l'intérieur et je suis ravi de voir ça. Comme les X-Men, c'est pareil. Le Apocalypse qui a été critiqué, voilà, pour ce qu'il était, bon voilà, il a ses faiblesses, mais moi je suis quand même content de le voir. L'adaptation, pour moi, du fait qu'elle soit présente, ça ravit le fan que je suis. Après voilà, il y a Suicide Squad qui est toujours
Ah, c'est le dossier un peu épineux,
voilà.
Ah ouais.
Mais voilà, pour moi, tant que je retrouve l'univers dont l'adaptation est tirée, moi je suis content.
Ouais,
je suis bon public.
Vas-y,
après c'est comme tout dépend comment l'adaptation est faite. Moi par exemple, pour Justice League, moi qui adore ces personnages, qui avaient découvert la Justice League quand j'étais gamin, notamment à travers la série Bruce Timm, plus la lecture des comics et tout, moi quand j'avais vu le film, je m'étais senti insulté en tant que lecteur et que fan, pas parce que le personnage de Superman ou de Batman n'était pas respecté, mais parce que j'ai eu le sentiment qu'en fait l'univers dans lequel s'intègrent ces personnages n'avait pas été respecté. Mais ça, c'est faute à l'ingérence. Donc après, c'est toute la difficulté de trouver comment rendre compte, même rendre justice à l'essence même des personnages. Après, effectivement, si à l'essence des personnages, c'est que ça fonctionne. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait eu certaines prises de liberté. Ça peut être parfois très plaisant. Je peux te prendre l'exemple, même si ça reste limité, parce que c'est pas non plus ultra qualité. Mais si tu prends par exemple ce qui se fait au niveau de la CW, c'est loin d'être une qualité, mais au moins il me donne l'impression de vouloir adapter des personnages, mais parfois, enfin pas tout le temps malheureusement, d'en respecter l'essence, ou en tout cas pareil pour des événements. Je veux dire là, par exemple, clairement ça s'éloigne du comics parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils sont en train d'adapter Crisis on Infinite Earth. Là on est bientôt au stade de la crise, et sincèrement, même si c'est pas du tout comme dans le comics, forcément ça ne peut être qu'éloigné, et ben ils respectent l'esprit, et en fait ils adaptent le truc, il y a une réelle liberté qui est prise, mais c'est tellement dans l'esprit de ce qui a été fait dans le comics qu'en fait c'est jouissif parce qu'on n'a jamais vu ça, et que tu sens que les mecs respectent le matériau de base. Et par exemple, là où le matériau de base n'avait pas pu être respecté, ça aurait pu être Suicide Squad. Bon, on parle pas des Batman de Schumacher, hein, parce que là pour le coup niveau essence du personnage ruiné, je crois que c'était pas mal aussi. Donc, mais après tout dépend. Il peut avoir aussi des adaptations. Tu prends Watchmen, l'adaptation de Watchmen par Zack Snyder. Elle est géniale, et pour le coup, c'était quasiment, hormis à quelques détails près, une adaptation case par case.
Enfin, c'est plus qu'un détail quand même.
C'est un gros détail.
Oui, c'est vrai, gros détail, mais il y a
avec plein de tentacules.
C'est vrai, c'est vrai.
De nouveau, il y a plusieurs points. Le premier, c'est on adapte, donc ça veut dire qu'on part d'une base. Est-ce que le spectateur, le joueur, le lecteur, parce qu'on pourrait adapter un livre d'un film, si c'est beaucoup plus rare, est-ce que le lecteur connaît l'œuvre originale, enfin, est-ce que la personne connaît l'œuvre originale? Déjà, il y a ça. Par exemple, si je prends, revenons au Seigneur des Anneaux, parce que bon, j'ai un affect particulier pour cette saga, ça sort en 2001, 2002, 2003. À cet âge-là, j'avais pas personnellement lu les livres. J'étais pas en capacité intellectuelle de m'ingérer les trois volumes, ce que j'ai fait immédiatement après avoir vu les films, par contre. Mais au moment de voir ces films, c'est une épopée comme on n'a jamais plus fait depuis. Les films indépendamment fonctionnent. Et encore une fois, faire une adaptation en 2001, 2002, 2003, donc au début des années 2000, c'est pas faire une adaptation fin 2019, quand une news sur trois, c'est un tel adapte quelque chose. Quand tu regardes les sites spécialisés écran ou comics, la plupart du temps, c'est Netflix acquiert les droits de telle série, la Warner acquiert les droits de tel livre, la Fox, bon, maintenant Disney acquiert les droits. Il y a plus beaucoup de grands films hollywoodiens.
Ouais.
Création originale. On va parler d'un Blade Runner récemment, mais c'est encore un blockbuster. Bon, je sais pas trop. Mais moi, le problème, il est là, c'est que faire une adaptation, pour le coup, maintenant en 2019 de The Witcher, après que les jeux aient marché, ça sera peut-être très bien. Là n'est pas le débat, mais il y a un petit miasme mercantile derrière qui me gêne un peu.
Bah, ouais. Disons que maintenant que les adaptations, ça fonctionne, on a envie d'adapter tout et n'importe quoi, peu importe la qualité et l'intérêt du projet et du matériau de base. De toute façon, c'est une adaptation, donc on va le dire en gros que c'est adapté de tel livre, de tel comics. Alors, si en plus c'est marqué From the Graphic Novel, alors là c'est jackpot. Et du coup, voilà, on va plus créer, mais on va aller chercher des trucs à adapter. Et il y a même des scénaristes, je pense évidemment à Mark Millar, qui maintenant font leur truc pour les vendre derrière, qui en font leur façon d'écrire en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis
du coup, on se demande s'ils créent une série, un film, ou s'ils écrivent vraiment un comics, ces gens-là.
Et puis c'est révélateur quand tu vois que alors c'était en 2016-2017, quand tu vois que Descender venait à peine d'être sorti et que Sony d'emblée achète les droits d'adaptation. C'est pareil pour Farmhand. Donc et c'est vrai que c'est une réflexion qu'on se fait. Le nombre de créations originales du point de vue des séries ou même des films, c'est quand même vachement diminué. Ça a quand même diminué, mais après, il y a ces raisons. Pour reprendre une saga cinématographique en termes d'adaptation, tu as eu par exemple forcément Harry Potter. Moi, j'adore ça, je suis un grand fan. Et pour preuve que des fois, l'adaptation, par exemple, ciné peut être meilleure que l'adaptation littéraire, moi, j'ai bien aimé, par exemple, l'adaptation du dernier tome, mais par le dernier film, donc la partie 2, parce que ça avait su se détacher du livre et que ça avait pu donner une certaine action, un certain caractère épique, même s'il y avait quand même des gros défauts. Mais c'est aussi, je pense, dans le temps, et c'est peut-être aussi le problème, c'est qu'on, effectivement, on veut adapter tout et n'importe quoi, et sans doute des choses qui ne sont pas adaptables.
Qui n'ont pas d'intérêt à l'être et qui sont très bien de leur côté.
Totalement.
Pour continuer sur la connaissance de l'œuvre adaptée, bon, on va mettre les pieds dans le plat. Marvel Studios, évidemment.
C'est un bon exemple.
Moi, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Alors, autour de la table, on est plus, enfin, plutôt autour du micro, on est tous plus ou moins adeptes à différents degrés de l'univers Marvel. Là, effectivement, adaptation. Alors, Marvel a su conserver son, ce qu'on a appelé maintenant la formule, la recette Marvel, et ça, bah, c'est louable. C'est-à-dire qu'ils, et en plus, ce sont de vraies adaptations, parce que moi, ce sont des scénarios que je n'ai jamais lus, la plupart du temps, même si pour le coup, c'est adapté. Moi, les histoires de Marvel Studios qu'ils me racontent, je les ai jamais lues. Donc, moi, là, de ce point de vue-là, moi, je suis satisfait de l'adaptation générale de l'univers Marvel Studios, enfin Marvel Cinematic Universe plutôt. Par contre, au cas par cas, bon, l'exemple le plus frappant, ce serait Thor. En tant qu'adepte de Thor depuis Straczynski et ayant rattrapé par exemple du Simonson ou bon, très récemment je suis depuis presque 10 ans maintenant le run de Aaron. Voilà, moi voir Thor qui joue à Fortnite dans, après avoir décapité Thanos dans Endgame, ça m'est insupportable. Véritablement insupportable. Alors que dans l'arc de Straczynski après Civil War, t'as un Thor qui coupe le jus électrique de toute la planète. Ça te donne un peu l'écart d'une adaptation entre une version papier dite originelle et une version dite sur écran qui se doit de rentrer dans la recette d'adaptation de l'adaptateur. Après, c'est tout à fait personnel. Encore une fois, si tu es un spectateur qui n'a pas forcément d'attache à Thor et que tu es en plus satisfait par la formule et la recette, il n'y a aucune raison que l'adaptation te gêne, puisque tu n'as pas le recul suffisant pour discuter, pour réfléchir, et tout simplement pour apprécier ou déprécier le personnage. Donc, la plupart du temps, l'adaptation, bonne ou pas, vient de ta connaissance ou pas de l'œuvre adaptée.
Là où je trouvais que Marvel Studios était un bon exemple, c'est qu'à un moment, on s'est même posé la question de quel support adapter l'autre. À un moment, le Marvel Studio était tellement rentable, apportait tellement d'argent, etc., que on se demandait si les comics n'étaient pas en train de commencer à virer Marvel Cinematic Universe et du coup à presque boucler la boucle en devenant une adaptation d'adaptation et en intégrant de plus en plus de choses qu'on voyait dans le cinéma.
Ah non, le meilleur exemple, c'est Guardians of the Galaxy, je trouve. Mm-hmm. Un numéro à l'autre, boum, t'as l'équipe du film. C'était le même auteur, Brian Michael Bendis, c'était le même dessinateur, Steve McNiven, et d'un numéro à l'autre, tu te retrouves avec l'équipe du film, plus ou moins dans la même situation, parce que subitement apparaît la base de Nowhere, qui avant n'avait pas forcément d'intérêt. Et là, c'est une contre-adaptation ou une sur-adaptation, parce que derrière, le but, c'est de rentrer du billet vert, tout simplement. Ou de fidéliser un lectorat du coup, mais un groupe de spectateurs qu'on va espérer retrouver dans des boutiques avec des livres en main, ce qui n'est jamais arrivé, puisque bah, sinon, si chaque spectateur s'était retrouvé dans des boutiques, je pense que Marvel aurait un tableau Excel beaucoup plus foisonnant, Marvel Comics, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas. Mais oui, la contre-adaptation ou la sur-adaptation, c'est aussi fait dans l'idée de uniformiser un média au travers de différents supports, effectivement. Par contre, la suite de ça, c'est dire que bah, malgré tout, même si le Marvel Studios, avec la force et la méga puissance que c'est devenu, bah, au même moment, on s'est retrouvé avec Infamous Iron Man, des Riri Williams, des Captain America Falcon, des Captain America en mode Secret Empire. Donc, ça reste assez timide comme bascule inverse, mm-hmm. malgré tout.
On a eu cette crainte, effectivement, et puis on a vu après que finalement, peut-être pas. C'est surtout dans des designs, dans des choses comme ça, ou des personnages qui reviennent sur le devant de la scène, parce que, voilà. Mais effectivement, en termes d'histoire, en soi, ça t'est plutôt... voilà. Tu parlais des fameux lecteurs qui seraient amenés en librairie parce qu'ils ont vu le film, ou parce qu'ils ont regardé une série, ou vu une adaptation. Vous qui, tous, hein, comme moi, traînez dans les librairies, est-ce que vous avez l'impression, vraiment, qu'ils existent, ces gens-là?
Ouais, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Après, une chose est sûre, c'est que clairement, et je trouve pas forcément très sain, c'est que effectivement, les éditeurs, et c'était sans doute bien plus marquant avec Marvel, avaient tendance à caler ces publications comics avec les films, quoi. Et ça en était même risible. Parce que moi, j'avais le sentiment à me demander, mais c'est quoi qui oriente quel support oriente l'autre? Est-ce que c'est les films qui orientent le comics ou est-ce que c'est le comics qui oriente les films? Et ça me dérangeait. Maintenant, il y a sans doute un effet de personnes qui découvrent les adaptations vers les ouvrages, mais j'ai quand même le sentiment que ça reste sans doute limité. Ça me semble pas être incroyable.
Erwan, Boris, vous les connaissez, vous, ces lecteurs qui viennent aux comics parce qu'ils ont vu un film?
Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, en sortant de la salle de ciné, vont chez leur libraire. Surtout que, notamment chez Marvel, il y a tellement de séries différentes, de relaunch, etc. La personne qui dit bah, « j'ai vu tel film, conseillez-moi un livre, un comics pour retrouver les personnages, un peu la même histoire », je pense que pour le libraire, c'est l'enfer. Hein. C'est compliqué, donc... Pas sûr, et je pense que c'est pas le même public. Enfin, les films Marvel sont quand même destinés au grand public, on va dire. Ouais. Donc, ils visent pas forcément à ce qu'après, ensuite, ça se retraduise en vente comics. Enfin, moi, je pense pas. Et puis, ils font tellement d'argent avec le film. C'est surtout ça. C'est ce que vous disiez. Je pense que les films influençaient un peu les comics avec des équipes qui changent. Des designs de personnages aussi, on retrouve, tu parlais des gardiens Anthony, on retrouvait les mêmes têtes que les acteurs dans les films par exemple, voilà, je pense qu'ils ont essayé d'influencer. Alors après, ça transforme pas quand même totalement les comics papier à partir des films. Les auteurs ont quand même une liberté et font leurs histoires, mais ça a eu un moment, peut-être encore un peu, une certaine influence dans ce sens. Après, moi, pour qu'une adaptation me satisfasse, il faut quand même déjà un minimum que les personnages soient respectés, c'est ce que tu disais, Erwan. Que la caractérisation soit celle que je retrouve, que j'ai dans les comics. Si les personnages sont totalement différents, voire massacrés dans leur attitude, leur comportement, tout de suite, c'est gênant. Et après, ça dépend si c'est une adaptation d'un comics, c'est-à-dire si on prend une histoire existante, comics, et qu'on essaye de la passer sur écran, ou si on utilise des personnages pour une nouvelle histoire. Par exemple, moi, l'adaptation qui me vient en tête et qui m'a marqué le plus, c'est une adaptation en animé, le Spider-Man New Generation, qui à la fois respecte la caractérisation des personnages, crée une histoire un peu inédite quand même, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir lu cette histoire dans des comics. Mais l'histoire est tellement bonne que ça fonctionne et que c'est vraiment, vraiment excellent. Après, je ne suis pas sûr qu'initialement, c'était une adaptation grand public. Ça s'adressait quand même beaucoup aux fans de comics papier, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de références. C'est un animé, ça ne s'adresse pas non plus à un public.
Je pense qu'effectivement, l'équipe qui est derrière ça faisait un film hommage, une vraie déclaration d'amour au personnage, à son histoire multiple. Là où la communication du studio était plus axée grand public, effectivement, les intentions des uns n'étaient pas forcément celles des autres. Mais oui, effectivement, au final, au résultat, on a un bijou, et on a un bijou qui est plein de clins d'œil, plein d'easter eggs. Et j'arrive pas à me décider par rapport à cette histoire autour de Watchmen. Il faut avoir lu pour comprendre, etc. Est-ce qu'il faut vraiment avoir lu pour comprendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand moi je connais l'œuvre de base et que je trouve des références, des clins d'œil, des trucs un peu cachés dans le décor, une petite réplique qui parfois est exactement la même, enfin ils ont juste repris telle phrase qui est extraite du texte et ils l'ont reposé, des petites références comme ça, et moi en tant que lecteur je les reconnais, je les vois. J'ai l'impression que le mec qui a fait ça, nous fait un clin d'œil, avec un petit pouce levé comme ça, et t'as vu, j'ai fait ça et tout. Et toi, tu l'as vu, en plus, c'est cool. Donc voilà, ça me plaît, moi, dans une adaptation, de retrouver des petites choses comme ça, des petits easter eggs. C'est presque ce que je cherche dans certaines adaptations. Et effectivement, Spider-Man to the Spider-Verse, c'est un modèle pour ça.
Oui.
Et Lego Batman, pareil.
Je sais pas, ça, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça dépend, je pense, du public auquel ça s'adresse. Et puis, quand on va voir l'adaptation, qui on est, c'est-à-dire si on est un lecteur de comics ou pas. Donc, forcément, le regard est différent. Voilà. Mais après, moi, sur Watchmen, je peux juste confirmer que le comics est un excellent préquel à la série. Hein. Ça, c'est sûr.
Alors là, tu vas agiter des esprits en disant ça, tu prends des risques.
C'est tout ce que je peux dire, vu que j'ai pas vu un seul épisode. Mais...
Penser un monologue. Alors, ce serait de dire que déjà, quand on va voir une adaptation, on y va avec sa propre subjectivité. Donc, dire si une adaptation est convenable ou pas, là, c'est propre à chacun, en fonction de notre passif, de notre recul et de notre connaissance plus ou moins poussée de telle ou telle adaptation. Deux, de manière très concrète, sur Watchmen, l'épisode 3, je vais pas dire ce qui s'y passe, mais je l'ai vu avec un proche qui a une connaissance du film très modérée, qu'il l'a vu il y a longtemps, mais qui n'a pas lu le comics. Très honnêtement, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Le personnage du FBI qui revient, tu ne sais pas qui c'est. Mm-hmm. Le film, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas à qui ce personnage s'adresse dans la cabine. Oui. Tu ne sais pas à qui ce personnage s'adresse. À un moment donné, tu as des posters de pop art de Warhol tu as quatre portraits, tu ne sais pas qui sont ces personnages. Tu as l'adjoint de ce personnage du FBI qui, à un moment donné, va raconter le passé. Tu ne sais pas, du coup, ce qu'est ce passé. L'épisode 3, si tu n'as pas vu ou lu le comic, tu ne comprends rien.
Bah, pareil avec la scène d'ouverture du cinquième épisode, et justement cette fin qu'on ne peut pas connaître si on a vu que le film ou si on n'a pas lu le bouquin Watchmen. Même chose, l'épisode 6, le dernier en date, qui nous a un petit peu fait débattre entre nous, que moi je trouve absolument merveilleux, bah, t'as intérêt à avoir digéré et avoir bien compris et bien lu ton Watchmen, et voilà, pour peut-être l'apprécier pour ce qu'il est. Oui, effectivement, c'est très pointu, c'est très exigeant.
Le souci, c'est que la première, on va dire le prologue, comme tu dis, Anthony, est sur format papier, et la suite est en série. Donc ça ne s'adresse pas a priori aux mêmes personnes. Il y a des gens qui regardent des séries sans avoir lu un comics, et qui suivent les séries comics sans les impressions, je pense. Donc comme c'est une suite, bah, ceux qui lisent pas de comics, ils ont l'impression d'être un peu floués, on va dire, de rien comprendre, parce que bah, ils n'ont pas lu auparavant le comics. Je pense que c'est un des soucis, c'est que le support n'est pas le même pour une œuvre coupée en deux, quoi, on va dire.
Après,
peut-être, mais est-ce qu'on peut pas condamner la série parce qu'elle ose aujourd'hui faire la suite d'un chef-d'œuvre?
Je suis tout à fait d'accord, mais les personnes qui râlent parce qu'ils n'ont pas lu le comics, bon, après ils peuvent aller lire le comics, hein, on ne leur interdit pas, mais je pense que c'est ça le souci. On leur conseille, mais c'est ça la difficulté, c'est de passer d'un support à l'autre. Et forcément, on perd des gens en route.
Oui, et puis il y a ceux qui se seront accrochés, qui auront été jusqu'au bout de la série, même s'ils ne comprennent pas tout, et qui auront quand même, je pense, vécu un bon voyage. Ils n'auront pas tout compris au voyage, mais ce n'est pas grave. Et qui après vont avoir la curiosité de se renseigner, même sans forcément lire l'œuvre intégrale, au moins se renseigner. Chercher à comprendre d'où, enfin, à quoi on parle, de quoi on parle, à quoi on fait référence, etc. Et puis bah, peut-être que parmi ceux-là, il y en a qui vont aller découvrir ce monument de la bande dessinée qu'est Watchmen. Et tant mieux. Et
ils iront peut-être même lire Doomsday Clock quand ce sera
peut-être,
fini.
Peut-être, parce qu'en termes de suite, on a autre chose là, encore. Donc, non, c'est cool. Oui, vas-y.
De nouveau, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. De nouveau, sur cet épisode 6, je vais faire deux points. Là, c'est encore plus fin dans l'adaptation, parce que sur un micro détail entre deux trous percés dans une cagoule, pour en dire plus, les artistes et les scénaristes de la série se permettent d'explorer le passé de la série, qui est en fait le même passé que le comics, pour en adapter un détail, pour en faire un épisode complet. Mmh. Je trouve que de ce point de vue-là, là, l'adaptation prend tout son sens.
Oui.
Vraiment, prend tout son sens. Et en plus de ça, de manière, si on élargit le spectre, une adaptation qui, la plupart du temps, va utiliser une œuvre pour la déporter sur un autre support, donc soit du papier au jeu vidéo, du papier à l'écran, la plupart du temps, fixe, il faut que, en plus de la subjectivité du spectateur ou du joueur, bah, il faut que l'œuvre se complaise dans le média. C'est-à-dire que, par exemple, Ant-Man, c'est l'adaptation du comics Ant-Man, mais c'est un film à chier.
C'est pas faux.
Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'une fois que tu adaptes, tu te passes de toute la partie, la plupart du temps, invention, puisque tu adaptes. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de travail d'invention, c'est pas ce que je dis, mais il y a une certaine facilité, puisque tu rentres dans un univers déjà existant. Si ton œuvre adaptée, elle n'est pas bonne en tant qu'œuvre sur un support particulier, ça marche pas. CD Projekt utilise The Witcher en papier pour en faire un jeu vidéo. Qu'est-ce que t'apporte le jeu vidéo par rapport au papier? Bah, c'est l'interactivité. Et en plus, c'est le choix. Le jeu The Witcher te propose de choisir entre telle ou telle action, tel ou tel dialogue, ce que le livre ne pourra jamais faire. Par contre, le jeu vidéo, lui, va t'imposer un cadre visuel que le livre, lui, te laisse libre. Donc, en plus d'adapter, il faut que le support sur lequel tu adaptes soit conscient de ses propres limites et de ses propres possibilités, sinon ça marche pas.
Erwan, tu as un petit truc à dire, après j'avais une petite réflexion et une orientation à donner qui te concernait, donc vas-y si tu avais un complément à apporter.
Ouais, alors c'était par rapport à la question de tout à l'heure, par rapport aux gens qui vont voir le film et qui se tournent vers les comics.
Oui.
Alors dans les boutiques en général, quand j'y vais après les films, c'est un peu désolant, mais en fait, les gens recherchent plus les figurines pop que les bouquins, donc ça me rend un peu triste à chaque fois. Mais des personnes, j'en connais une et j'en fais partie, puisque moi j'ai commencé à lire les comics avec justement par cette mode là,
ouais.
avec Kingsman, où j'avais été directement après le film chercher le livre Kingsman.
Ouais, Kingsman.
Et pareil, je crois qu'il y avait un Marvel qui était sorti, et j'avais pareil acheté les Avengers avec le run de Hickman, et donc j'ai commencé par ça les comics. Donc je fais partie de ces gens-là qui, après le film, sont allés au cinéma. Et pour rebondir sur Watchmen, je n'ai pas lu le comics. Et le film, j'ai un vague souvenir parce que je l'ai vu il y a super longtemps, j'ai dû le voir deux fois mais je m'en souviens plus. Et pour autant, ça me dérange pas dans mon visionnage. Tout ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est... Moi j'appelle ça des easter eggs, c'est-à-dire que c'est des clins d'œil aux fans qui vont les reconnaître tout de suite mais qui n'entachent pas ton visionnage en tant que simple... En tant que simple spectateur, quoi.
Pour moi,
ça
c'est
fait
plus
plaisir aux fans. Bah, je sais pas, moi, ça m'a pas dérangé. C'est-à-dire qu'il y a pas de choses. Je me suis dit, tiens, je comprends pourquoi il y a ça. Ça m'a pas dérangé. Dans pas mal de séries, t'as toujours des petits trucs qui sont posés par-ci, par-là, et voilà. Clairement, moi, j'apprécie chaque épisode que je vois. Hein. Je prends une claque, parce que la
réalisation,
elle
est propre. Ça t'empêche pas, du coup, de comprendre le truc et de voir un peu la trame et de vivre finalement un truc avec cette série.
Ah non, pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Et ça te donne envie de le lire?
Bah du coup oui, parce qu'apparemment il y a des trucs qui dessinent, notamment on parlait de Tentacule tout à l'heure,
ouais.
qui sont aussi dans le film, et ça j'en ai aucun souvenir dans le film.
Tentacule il n'y a pas dans le film justement, c'est vraiment la fin quoi, cette histoire de la scène finale du film n'est pas du tout la même que celle du comics, et la scène finale du comics, il y a une grosse référence au tout début, enfin il n'y a même pas une grosse référence, on la voit au tout début de l'épisode 5, avec cette fête foraine.
D'accord, mais de toute façon oui, il faut que j'aille le lire... De toute façon, avec Doomsday Clock, c'est sûr, j'irai tout lire d'un coup, mais voilà. Moi, ça me dérange pas dans mon visionnage, je prends une claque à chaque épisode parce que la réal est propre.
Ouais. Et, le son.
C'est travaillé, c'est bien approfondi. Ouais, non, c'est, voilà.
Bah, cool.
Sans lire, c'est bien aussi.
Ouais. Attends, juste, je rebondis sur ça. Bon, on va la nommer parce que ce sera plus simple. Dans l'épisode 3, quand Laurie Blake apparaît,
oui.
est-ce que tu
oui.
savais qui est le personnage?
Je m'en suis douté, ouais, par rapport au film.
Okay.
Au niveau de son look, mais vraiment par rapport au film.
Mais là, si tu. Par rapport au film, c'est convenable, hein, puisque c'est le film jusqu'à
la scène finale, hein. Enfin jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, c'est quasiment du case par case. Et là, pour le coup, en termes d'adaptation, tu peux pas faire plus fidèle. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon, passons. Si tu connais pas Laurie Blake, le personnage de Laurie Blake, comment tu veux comprendre l'épisode?
Ouais.
Après, je dis pas que c'est bien, pas bien, qu'il faudrait que ce soit accessible ou pas. Je dis juste comment tu fais pour comprendre l'épisode si t'as pas vu, si tu connais pas, si tu ne sais pas qui est Laurie Blake et son rapport du coup à tout ce qu'il y a avant.
Oui, non, mais c'est sûr. Bah
justement,
c'est
complexe. Ça crée un mystère et peut-être que ça va être résolu par la suite. Peut-être que ça va arriver, je sais pas. C'est peut-être fait exprès, j'en sais rien du tout.
Peut-être qu'il y aura une scène de flashback qui nous l'expliquera. C'est possible, mais là, franchement, vu la façon dont c'est parti, le peu d'épisodes qui restent, parce que mine de rien, je crois qu'il n'en reste plus que 3. Merde, déjà.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'ils prennent le temps vraiment d'attendre ceux qui ont des wagons de retard juste parce qu'ils n'ont pas lu le truc. Ils vont continuer leur truc en allant de l'avant. Et voilà. Et à mon avis, le parti pris pour le coup, c'est Damon Lindelof. Lindelof, hein, c'est ça. Son parti pris, lui, c'est bah, tant pis pour ceux qui n'ont pas lu. Ils avaient, enfin, limite, c'est ça, quoi. Tant pis, ils avaient qu'à le lire. Et du coup, bah, moi, je raconte mon histoire, je fais la suite, je vais pas prendre du temps en 9 épisodes à re-raconter ce que les gens peuvent déjà voir ailleurs. Et je continue et je trace ma route. Et c'est cool qu'il y en ait, du coup, comme toi, qui n'ait pas lu et qui arrive quand même à apprécier le truc et à être intrigué et à vouloir suivre et à apprécier. Je trouve ça bien et en ce sens-là, pour moi, son pari est réussi.
C'est culturellement sain.
Bah oui, ça suscite la curiosité. Mais on est dans une génération, dans une époque où maintenant il faut que tout tombe tout cuit et que le moindre truc, si c'est pas expliqué dans le film ou dans la scène ou qu'il n'y ait pas des gros panneaux clignotants qui te disent coucou, c'est moi, je suis là parce que dans tout le truc, bah les gens vont pas chercher. Enfin, vont pas chercher à comprendre. On n'est plus dans cette époque-là.
Il fallait faire un épisode 0 qui durait, j'en sais rien, 20 minutes en forme d'animé pour faire un rappel par exemple à la partie pirate dans le comics, où tu changes un peu de support, qui faisait un récap.
Peut-être.
Ça aurait pu être envisageable. Mais moi, je trouve ça sain qu'un auteur fasse la suite d'un chef-d'œuvre sur un autre support sans se priver, quoi.
Et moi, à chaque fois que je vois un kiosque à journaux, dans chaque épisode, il y a un kiosque à journaux. Mais à chaque fois, voilà, c'est un détail, c'est con, hein, mais à chaque fois que je vois ce kiosque à journaux de l'épisode, puis c'est jamais le même, je trouve ça ouf.
Ouais.
Et il me semble qu'en parallèle des épisodes, il y a aussi des autres épisodes. Alors je sais plus le nom, mais c'est un truc Pedia. Donc c'est comme Wikipédia, mais pour la série. Et je pense que ça rentre en détail dans ce qui est développé.
Un peu comme les talk-shows après les épisodes de Walking Dead et tout ça.
Ouais, il me semble qu'il y a ça aussi
qui est
en parallèle. Donc.
Ouais. C'est comme des coupures de journaux, des articles critiques, mais intra-narratifs. Enfin, c'est comme un support en plus encyclopédique, mais comme si c'était écrit dans la série.
D'accord.
Okay.
Ça m'intéresserait de jeter un œil quand même à ce truc-là pour voir un peu. Pourquoi je savais pas qu'il y avait ça. Enfin, du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. On parlait de case par case, de se détacher du support original. Alors, on est un fandom quand même, faut le reconnaître. Hyper difficile à satisfaire. C'est du case par case. On n'est pas content parce qu'il n'y a pas de surprise, parce que ça reprend ce qu'on connaissait déjà. Et pourquoi tu vas payer un film pour voir ce que t'as déjà lu et que tu connais par cœur? Ça se détache trop, comme j'en pense ce que j'en veux, mais comme un BVS ou comme un Justice League, surtout Batman v Superman. Ça se détache trop de ce qu'on connaît des personnages, etc. On crie au scandale, à la trahison et machin, alors que pourtant le mec, il a clairement une vision et qu'on peut au moins saluer ça et qu'il a sa vision et qu'il allait voilà, ça va pas, enfin ça ne va jamais, on est quand même hyper difficile à satisfaire
totalement.
Il y a un moment où moi je le dis quoi, je suis capable de reprocher un film ce que j'ai adoré dans un autre, enfin dans une adaptation ce que j'ai adoré dans une autre adaptation, et cette espèce de jamais content, et voilà, j'en fais partie aussi. On est quand même un fandom hyper difficile à satisfaire en termes d'adaptation, je pense. Et pour du case par case, je voulais citer un autre exemple, et c'est pour ça que je voulais retourner vers Erwan tout à l'heure. Mutafukaz.
Oui.
Quelle merveille ce film. Enfin voilà. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a lu. Enfin, moi, je me suis tapé l'intégrale en surfant sur l'appli d'OCS. Je vois qu'il y a le film qui est dispo en ce moment. Je le regarde. Ça faisait quoi, une heure que j'avais fini de ma lecture. Je me suis retapé la même histoire avec les mêmes répliques par moment même. Et pourtant, j'ai pris une deuxième claque dans ma tronche. Enfin, ça fonctionne de fou, cette adaptation-là.
Bah, c'est l'effet manga, en fait. Les mangas, c'est pareil. Les animés sont adaptés généralement case par case, pareil. Et ce qui fonctionne bien, en fait, c'est l'animation qui est autour et l'ambiance musicale et sonore. Et c'est ça qui est propre dans ce genre d'adaptation. Mais là, c'est animé, donc c'est pas comme les films. Mais voilà, pour moi, c'est l'effet manga, en fait. C'est pareil, c'est le même principe.
Et du coup, quand c'est animé, c'est encore plus proche de ce que tu vois, parce que ça reste en plus du dessin et tout. Donc, même si là, ils ont réussi à quand même à faire encore autre chose dans le style visuel. Et puis, bah oui, il y a des gens comme voilà, Aurel San, que on pense à ce qu'on veut de sa musique, mais dans ce film-là, bah, ça le fait.
Carrément.
Ça le fait. Donc voilà, on peut avoir du case par case. Voilà, Watchmen s'en est jusqu'à la fin. Mutafukaz, c'est une adaptation hyper fidèle, plus fidèle tu meurs. Et pourtant, c'est extraordinaire. Et puis en face, on a des Watchmen, on a des... Enfin, Watchmen, c'est une suite, donc c'est un peu différent, mais on a des... Même des Jokers.
Ouais.
Joker qui est salué par tout le monde, qui est en passe de rafler, à mon avis, quelques statuettes au mois de février du côté d'Hollywood. C'est quand même pas ce qu'on connaît du Joker. Et pourtant, on s'est tous trouvés à ramasser nos dents à la sortie de la séance.
Parce qu'il y a une vraie vision aussi, je pense, quand même. Hein, le film.
Là, on est sur l'importance de la vision, tout comme les films de Zack Snyder, on en pense qu'on en veut, mais il y a la vision.
Et aussi un acteur.
Oui, un artiste.
Oui, ça joue aussi.
Todd Phillips aussi.
Voilà, parce que, alors moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Marvel, je suis pas un grand, grand fan. J'ai pas le souvenir, enfin, de mémoire, que c'était des acteurs, des immenses acteurs qui intervenaient aussi dedans. Je pense que là, pour Joker, l'acteur apporte quelque chose
à l'adaptation. Oui, la prestation de Phoenix, oui, elle compte, voilà. C'est clair.
Bien sûr, mais quand il y a la vision qui est là, quand la vision est là, bah, oui. Ça fait quand même une bonne adaptation, même si ça s'éloigne, et Joker, c'est clairement le cas, ça s'éloigne du support original, s'il y a une vision. Bah, forcément, on peut ou pas, ça va dépendre de ce qu'on attend aussi d'une adaptation, même d'un film. On va y adhérer. Moi, à côté, au combien je vais voir les Marvel, les films Marvel Studios, c'est Marvel, donc ils ont leur recette, mais c'est hyper édulcoré, quoi. Il n'y a pas de film, de film d'auteur, de film avec une vision chez Marvel Studios.
Pas chez Marvel Studios, mais je regarde vers un Logan.
Oui.
Et voilà, on s'est pris aussi un film dans les dents, là. C'était quelque chose, Logan.
Ouais, complètement.
Ouais, Logan, personnellement, avec du recul, j'ai préféré Logan au Joker, qui sont peut-être parmi les deux adaptations celles qu'on retient le plus, peut-être. Sauf que Logan, c'est encore mieux, parce que, selon moi, parce que c'est un film qui conclut une saga cinématographique elle-même adaptée d'une immense saga de papier, et qui... En tant que film, se permet d'adapter lui-même un comics qui est Old Man Logan. Donc c'est encore un stade au-dessus en termes de d'adaptation.
Ouais.
Tant, moi, dans le Joker, si on en revient sur la subjectivité de tout à l'heure, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'un Joker sans Batman, personnellement,
oui, c'est pas ce que t'attends, c'est pas ce que tu attends.
Gêne.
Oui, je peux le comprendre. Et là où moi, le fait d'avoir des clins d'œil assez appuyés, la présence de représentants de la famille Wayne, des choses comme ça, moi, ça m'a presque suffi, puisque c'est une jeunesse du personnage, etc. Alors après, oui, on se détache clairement de ce qu'il est et de comment il devient ce qu'il est. Mais voilà, là, pour le coup, la vision, elle a emporté sur la fidélité pour moi. Et du coup, bah, j'ai adoré. Or, pour moi, la meilleure adaptation, par exemple, enfin, une des meilleures adaptations de comics, c'est le genre, quoi. Alors, il y a la version animée de 1992 et celle-là on la touchera jamais dans mon cœur, mais pour moi, Lego Batman c'est un modèle, tout comme Into the Spider-Verse pour Spider-Man l'est. Et...
C'est vrai.
Enfin, peut-être, je sais pas si d'autres l'ont vu à part Clément, Lego Batman.
Ah non, pas Lego non. Batman, j'étais d'accord avec toi pour Spider-Man.
Ah, Anthony, tu l'as
vu? Lego Batman, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Maintenant,
Ils ont tout brassé de ce qu'est Batman. Alors certes, c'est une orgie de minis instants Easter egg. Enfin voilà, c'est à dégueuler quoi.
Ah là où il y a par contre, oui.
Mais c'est fou.
Et en termes d'adaptation aussi, là, je viens d'y penser, mais si on retourne en dehors du support cinématographique, tu as les Batman Arkham.
Oh oui.
Et là, pour le coup, ça part. C'est une histoire originale, mais du point de vue respect de l'ambiance, respect des personnages, franchement, t'as pas mieux.
Spider-Man PS4 se défend.
Bah, c'est ce que j'allais dire, j'allais vous renvoyer à tout ce qu'Anthony nous a dit, je crois qu'il en a parlé dans deux ou trois émissions consécutives il y a quelques mois maintenant, un an à peu près, je dirais, de tout ce qu'il avait raconté. Il nous avait fait un bon suivi de son expérience de jeu sur Spider-Man de PS4. Et effectivement, là, on a aussi sur le média jeux vidéo quelque chose qui avait l'air d'être une assez grosse dinguerie en termes de jeux vidéo.
Ah bah, Spider-Man, oui, clairement.
Et Injustice qui adapte des personnages de comics et qui finit par être adapté en comics dans d'autres histoires qui raconte ce qui se passe dans le jeu vidéo, etc., et devenir ce qu'on connaît avec Tom Taylor et compagnie, c'est aussi un cas particulier dans les adaptations.
Bah, ouais, puis le Spider-Man en plus de PS4 est intégré, je crois, a été intégré dans le comic. C'est pour le coup, c'est vrai, quand t'as une adaptation récente, bah, c'est dans l'esprit, mais totalement, j'ai adoré parce que c'est l'esprit de Spidey. Et puis, bah, ça prend des libertés avec ce qu'on connaît dans le comic, c'est magistralement bien fait, quoi. C'est du jeu vidéo, mais ça avait tous les codes, et c'est ce qui fait la grande force de cette œuvre vidéoludique, c'est que ça avait tous les codes, en fait, cinématographiques.
Carrément. Bah, pour compléter, sur les Batman Arkham, alors le premier, le Arkham Asylum, c'est un peu particulier parce que c'est une adaptation cachée de Arkham Asylum de Morrison.
Oui, ouais.
Plus ou moins, parce qu'il n'y a pas... Enfin, les seuls points adaptés, c'est l'asile et les passages hallucinatoires qui sont... Je vois ça comme une référence au collage de Mike Keane. Après, les deux suivants, Arkham City et Arkham Knight, sont pour le coup deux histoires originales, et en plus de ça, je crois que les trois sont scénarisés par Paul Dini. Donc, ça te donne l'envergure de l'adaptation en termes de narration. Après, t'as énormément de mécaniques de jeu qui sont essentielles et uniques aux jeux vidéo que les deux autres médias, à savoir le papier et le cinéma, ne pourront jamais retransmettre. Et en ce sens, du coup, l'adaptation de Spider-Man, c'est encore plus fort que le Batman parce que cette simple mécanique de balancement et de point d'ancrage de la toile sur les bâtiments qui est gérée physiquement, c'est-à-dire que si tu es au-dessus du bâtiment, tu ne peux pas t'accrocher physiquement au jeu, c'est de la jouissance avec une manette et deux sticks en main, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Puis aussi en adaptation, mais parce que c'est pas ultra. Enfin voilà, c'est pas génial. T'as même eu sur les adaptations, t'as eu par exemple un MMORPG, DC Universe.
Oui.
Qui doit avoir une dizaine d'années et qui est jouable sur PS3, PS4 et maintenant sur Switch. Là, c'est pareil. Ils ont essayé d'adapter, mais maintenant, il y a aussi peut-être tout simplement certains supports qui ne conviennent pas pour adapter, parce que pour le coup, même si c'est sympathique, on peut faire notre héros et tout, Pour le coup, j'ai pas trouvé ça sensationnel.
Là, pour moi, du coup, on n'est pas dans l'adaptation, dans le sens où on ne te raconte pas l'histoire. On
Ah.
prend juste des personnages, tu les utilises, tu vis ta vie avec le personnage, le costume, etc.
Ah, t'as
Là
carrément
où
un pouvoir.
t'as quand même une trame narrative dans les adaptations Spidey
Ah,
PS4,
d'accord.
Arkham
Ok.
Asylum, même Injustice, qui te crée
Ouais.
quelque chose, un univers,
Ouais,
en
c'est
partant d'un
vrai.
matériau. Là, pour moi, du coup, je ferai la différence. On va peut-être bientôt songer à conclure.
Si je devais rajouter quelque chose sur le jeu vidéo, parce que j'aime beaucoup ça,
Il paraît.
ouais. Encore une fois, là on en revient à ce qu'on disait avec Clément, c'est qu'il faut être tout à fait conscient de ce que t'apporte ton nouveau support sur lequel tu adaptes. Adapter, selon moi, un Superman, c'est pas spécialement intéressant. Parce que ça veut dire que tu peux voler, tu peux aller n'importe où dans n'importe quel environnement, tu n'as pas de résistance physique de matière quelconque, donc c'est assez peu intéressant. De la même manière, quand sur le prochain Avengers, tu adaptes à Captain America ou une Black Widow, c'est des personnages random dans le jeu vidéo. C'est des personnages humains qui se battent à main nue ou avec des armes à feu. C'est ni plus ni moins l'archétype éculé du héros de jeu vidéo. Alors que, de manière toute simple, adapter par exemple Dazzler, qui est un personnage dont les pouvoirs réagissent avec la musique dans un support comme le jeu vidéo, mais les possibilités qui sont derrière, c'est immense. C'est immense. Mais pourtant, voilà, soit tu vas dans la facilité d'adaptation et tu te calques sur un modèle déjà connu et compris, soit bah, tu vas dans l'adaptation en ayant pleinement connaissance de ce que peut t'apporter ce nouveau support, ce que fait Watchmen, la série, ce que fait Spider-Man PS4, et ce que pour l'instant ne fait pas Avengers à venir.
Et puis
Ce que fait
peut-être
comme.
pour vas-y.
Ou ce que fait que Spider-Man enfin Into the Spider-Verse. C'est-à-dire qu'à un comics figé, tu ajoutes du mouvement et de la musique. Ce qu'un comics ne pourra jamais te faire, même si des dessinateurs comme Warren Johnson ou un Lee Wicks ou un Chris Samnee sont absolument des maîtres dans te faire ressentir un mouvement articulé, ça n'aura jamais la fluidité forcément d'un animé. Jamais.
Et du coup, voilà, pour boucler la boucle, je souhaitais revenir auprès de Boris, qui lui n'est pas un spectateur d'adaptation et qui a peut-être du coup ses raisons. Est-ce que sont liées au fait que bah, ça t'intéresse juste pas ou juste t'as pas le temps?
Bon, la première raison, c'est que j'ai pas le temps. J'ai trop de comics à lire. Mais après, sur le grand écran, je suis souvent déçu quand même. Parce que, alors déjà, en termes de cinéma, je suis pas forcément un fan de cinéma d'action. Donc pour du super-héros, c'est pas super pratique. Autant j'aime bien sur support papier, BD. Faut pas qu'il y en ait trop non plus de baston, etc. quoi. Mais autant cinéma, je suis pas du tout client. Donc forcément, ça limite un petit peu les potentialités. Après, j'ai commencé, j'en avais parlé déjà d'Ardeville.
Oui,
J'ai
t'avais
vu
deux
deux
épisodes,
épisodes
ouais.
quand même.
Quand
C'est
même,
quand même
d'accord.
énorme. Et j'ai bien aimé. Il y a un petit peu d'action, de baston, mais c'est surtout moi voilà, les personnages, la caractérisation des personnages, la façon dont ils sont amenés, etc., qui m'intéresse. Et y compris dans les comics, je lis pas mal de comics indés. Et quand je lis du super-héros, il faut pas que ça bastonne trop, sinon ça me fatigue. Je pense que je suis peut-être. Est-ce quand on voit les adaptations cinéma, notamment Marvel ou DC, c'est normal, c'est du grand écran, donc il faut en donner plein les yeux aussi. Et
Oui, il y a
moi,
cette
je suis pas.
petite. Oui, tu
Voilà.
dois en avoir pour
Et
ton argent, entre guillemets.
voilà. Et moi, des fois, ça me lasse. Je me souviens avoir vu Batman BVS, ça. J'ai bien aimé toute la partie, enfin tout le début, etc. Ça m'a pas déplu. Puis quand il y a, je sais plus exactement, il y a longtemps que je l'ai vu, mais quand il y a l'espèce de monstre là contre qui ils se combattent, ça m'a saoulé parce que voilà, c'était de l'action, de la baston, et c'était trop long pour moi. Pareil pour Wonder Woman, j'avais bien aimé la première partie. Puis après, quand ça vire dans le grandiloquent, ça me. Donc c'est aussi pour ça que je vais pas trop voir ces adaptations. Bon, après c'est personnel, mais bon.
Oui, bah écoute,
Après,
puis tu t'épargnes
de merde,
de petites daubes, oui, voilà, je voulais pas le dire comme
oui.
ça, mais oui, tu t'en épargnes
Je l'ai
beaucoup.
dit. Ouais. Après, j'ai pas le temps non plus. Hein, faut être honnête, j'ai pas. Je pense que Daredevil, si j'avais plus de temps, j'aurais regardé plus de deux épisodes, mais.
Et du coup, quand tu nous entends nous extasier sur des Watchmen, sur des Joker, sur même des Titans, sur DC Universe, ça te chatouille ou pas?
Ah, bah c'est pas que ça me fait pas envie. Alors mais c'est vraiment le manque de temps. Après, je préfère lire les comics que je lis que de. Voilà, je sacrifierais pas le temps que je passe à lire des comics pour aller voir des adaptations, ça c'est sûr.
Et pourtant, rien
Après,
ne vaut un épisode avec du jingle jangle.
après, si vous me trouvez un moyen de, voilà, plus aller travailler et de gagner de quoi survivre sans problème. Dis, vous me donnez ça, puis j'irai voir des séries et tout ça. Non, c'est un problème de temps et puis pas forcément, voilà, de ce que je disais, pas forcément apprécier sur écran ce que je peux apprécier dans les pages DVD.
Alors je sens qu'on pourrait repartir hein, sur une nouvelle demi-heure, des heures ou je ne sais quoi. Voilà, c'est un sujet qui est hyper vaste et qui motive beaucoup de réactions et qui nous rappelle à chaque fois des nouvelles choses, etc. On s'interdira pas d'y revenir sur une manière ou sur une autre dans une autre émission, mais je sens que c'est le bon moment pour s'en arrêter. Sauf si quelqu'un a une dernière ultime remarque, sinon qu'il se taise à jamais.
Non,
parfait. Alors dans ce cas, on va conclure cette émission. C'est un sujet qui est hyper vaste et qui touche voilà chacun nos goûts, nos attentes et aussi notre histoire par rapport à avec quoi on a grandi comme support et tout. N'hésitez pas vous qui nous écoutez hein, nous faire des petits retours par rapport à vous, une bonne adaptation réussie à vos yeux, c'est quoi? Est-ce qu'il faut être fidèle? Est-ce qu'il faut pas être fidèle? Est-ce que la vision d'un artiste est plus importante que la magie de voir juste des personnages s'animer? Voilà. N'hésitez pas à nous interpeller là-dessus. On est un peu curieux de savoir vos ressentis là-dessus. On reviendra avec d'autres épisodes de ce type, des types un peu voilà, sans chronique, sans review, avec plus une conversation en partant d'une question, d'un sujet. Et au final, vous voyez qu'on peut aller très très loin. Voilà, on aura d'autres émissions un peu comme ça. Qu'en interne, on appelle des émissions extra, et c'est bien une des seules choses que Panini nous a apporté de bonne ces dernières années. Ça nous a donné un nom en interne pour ce type d'émission. Voilà, on en aura d'autres prochainement. On va essayer d'alterner les émissions classiques de review avec ce type-là de conversation un peu plus enlevée autour d'un sujet précis. C'est notre dernière émission de l'année 2019 aussi, celle-ci. Donc évidemment, on ne peut s'arrêter sans souhaiter à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et évidemment, on sera de retour en 2020, début janvier, avec nos chroniques, nos reviews habituelles de comics en VF, de comics en VO et peut-être d'adaptations si on a certaines choses qu'on a vues et dont on a envie de parler. Et puis fin janvier, les Comic Stories Awards pour faire le prétexte pour faire notre bilan de l'année 2019. Et puis derrière, eh bien, on reviendra avec d'autres sujets de conversation. Merci à vous, messieurs. Et on se retrouve très prochainement. Bonne lecture ou bon film, pour le coup, puisqu'on parlait d'adaptation. Bonne série, bon jeu vidéo, je ne sais quoi. À bientôt.
Salut.